Amis auditeurs, nous voulons vraiment vous remercier. Vous remercier pour vos retours nombreux concernant les précédentes sessions de réflexion, de débat. Vous avez été très nombreux à être avec nous, à partager, à écouter les replays. Et vraiment, nous voulons vous remercier pour ces retours que vous nous faites. Alors avant de commencer ce débat, mais aussi pour les futurs débats, nous redirons à chaque fois cela. Nous ferons cette petite mise au point. Oui, une mise au point, car dans ce monde où tout le monde veut et peut donner son opinion, dans ce monde où une simple vidéo devient une tribune pour faire passer ses pensées, où chacun a sa vision concernant un sujet donné, nous avons pris le parti pris au sein de Radio Advent Life de laisser parler la Bible et de laisser l'Esprit de Dieu nous guider à travers ces réflexions que nous mettons en place. Nous n'avons pas la prétention de répondre à ces questions que nous posons vendredi après vendredi. Mais nous voulons semer une graine de réflexion et laisser l'Esprit de Dieu la faire germer. Nous voulons aussi remercier tous nos amis, auditeurs, vous qui nous écoutez, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre croyance, ayez la certitude que nous les respectons. Et nous ne souhaitons pas que vous vous sentiez exclus dans cette réflexion. Même si nous évoquerons certaines problématiques inhérentes à notre propre église, et je nomme l'église adventiste du septième jour. En effet, nous ne pouvons parler que de ce que nous connaissons, n'est-ce pas? Ce soir, le sujet, pour arriver dans le vif du sujet, qui nous préoccupe, et si ce n'est pas le cas, cela devrait nous préoccuper tous en tant que chrétiens. Allez et faire de toutes les nations des disciples, selon le commandement de Dieu lui-même. Il est vrai que les disciples, en leur temps, nous ont montré l'exemple, à leur façon. Il est aussi vrai que les temps ont changé, que les mentalités ont changé, que la civilisation a évolué, ainsi que les outils qui sont à notre disposition. Alors, face à l'accueil fait à tout ce qui touche à la spiritualité dans notre société contemporaine, c'est-à-dire la société qui nous entoure, en 2017, bon nombre d'églises ont constaté la difficulté aujourd'hui de continuer à évangéliser, comme nous le faisions il y a quelques années dans les années 80-90. Alors, beaucoup de réflexion et d'énergie a été mise à contribution pour trouver des solutions, mais la question se pose où commence et où s'arrête une évangélisation pertinente, et je dis bien pertinente, aujourd'hui, en 2017, puisque nous avons cette nouvelle année face à nous. Quels sont les écueils à éviter lorsque nous entreprenons d'évangéliser nos contemporains? Quelle est la place de l'Église en tant que bâtiment, mais aussi en tant que groupement de personnes ou d'individus dans l'évangélisation aujourd'hui? Voici un aperçu des questions auxquelles nous essaierons de réfléchir ce soir avec l'aide de Pasteur Gabriel Monet et de Cathy, qui sera notre maître de cérémonie pour cette réflexion. Alors Cathy, bonsoir à toi.
Bonsoir David, bonsoir à tous, bonsoir William.
Comment vas-tu?
Ah bah ça va.
Bon, je vois que la voix s'est améliorée.
Oui.
Très bien, alors gloire à Dieu pour le fait qu'il t'ait donné la santé. Alors ce soir, je te laisse donc continuer. À introduire cette réflexion, et c'est à toi.
Alors voilà, la question qui se pose, c'est pourquoi il est si difficile pour nous d'évangéliser? Quand je dis si difficile, c'est pas au niveau administratif, mais pourquoi, même lorsqu'on parle de campagne d'évangélisation ou de programme d'évangélisation, on a l'impression tout de suite, en fait, que ça bloque au niveau des membres, au niveau des mentalités. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc la question est de savoir aujourd'hui, déjà, pourquoi il y a ce souci-là. Ensuite...
Alors quand tu dis, pour être précis, pourquoi, quand tu dis au niveau des mentalités, c'est-à-dire...
C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, dans mon vécu, c'est que dès qu'on parlait de campagne d'évangélisation ou d'intervenant pour un programme spécifique, on ne sentait pas vraiment l'engouement des membres. Voilà, quelque chose qui semblait voulu. Ça semblait même imposé par l'équipe dirigeante de l'église et subi par les membres d'église. En tout cas, c'est mon ressenti à moi.
D'accord. Alors, du coup, je te laisse continuer.
Vas-y. Donc voilà, la question est de savoir pourquoi aujourd'hui, justement, il y a cette difficulté-là dès qu'on parle d'évangélisation. Et ensuite, c'est de parler de ces nouvelles techniques d'évangélisation. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on est dans une période où il y a des églises cafés, des cyber-églises. Mmh. Il y a également des nouvelles, entre guillemets, méthodes d'évangélisation.
Je parlerai oui, des notamment. Espaces d'évangélisation.
Voilà. Mmh. Maintenant, pourquoi ça a été mis en place? Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que c'est pour pallier à un manque? Est-ce que c'est pertinent? Aujourd'hui, en tout cas, alors tout le monde, tous les auditeurs ne sont pas adventistes, mais dans notre église, il y a une problématique, c'est qu'on reconnaît qu'il y a un certain nombre de baptêmes, mais il y a aussi un nombre de sorties. Donc oui. Ça, c'est inhérent à toutes les églises. Mais la question est de savoir pourquoi aujourd'hui existe cette perte, en fait. Est-ce que l'Église répond? Alors, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas, qui ne connaissent pas nos croyons fermement que ce n'est pas l'Église qui sauve, que c'est Jésus qui sauve, mais nous pensons quand même que l'Église est un canal qui permet à des personnes de se retrouver et de se fortifier en vue d'être sauvées. Donc, la question est de savoir aujourd'hui pourquoi. Et si l'Église répond encore à une problématique, ou est-ce que l'Église va à sa perte? Quand je dis l'Église, c'est pas le bâtiment, je parle bien de l'Église des membres, membres, ceux qui constituent l'Église.
Alors, nous allons tout de suite appeler notre invité. Donc je vous laisse avec quelques minutes d'instrumental et nous revenons juste après. Voilà, nous revoici. Merci Seigneur, parce que nous avons réussi à joindre Pasteur Gabriel Monet. Nous sommes vraiment très heureux. Alors voilà, nous y sommes. Et donc, Cathy, je te laisserai peut-être introduire Pasteur Gabriel Monet. Comme tu le fais si bien, c'est à toi. Et juste après, nous le prendrons à l'antenne.
Alors, Gabriel Monet est professeur de théologie pratique à la faculté adventiste de théologie de Collonges-sous-Salève. Il est également pasteur. Il est marié à Stéphanie et père de 3 enfants. Est-ce que je me suis trompée, Gabriel?
Absolument pas. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Alors, Gabriel, est-ce qu'on peut se tutoyer?
Il n'y a pas de problème pour moi, avec plaisir.
Ah, super, super. Alors, j'ai un petit peu cherché sur Google ce que je pourrais trouver à propos de Gabriel Monet, et j'ai trouvé Zigzag du Monde.
Ah oui, effectivement. On a fait un voyage autour du monde en famille. Il y a 2 ans et demi qu'on est rentré maintenant.
J'ai trouvé ça super. Enfin voilà pour la petite présentation, donc merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre appel.
Alors si je peux compléter simplement Cathy, nous avons Pasteur Gabriel Monet est l'auteur d'une thèse. Il est l'auteur d'une thèse, l'Église émergente, être et faire Église en post-chrétienté. Alors tu me corriges Pasteur si je me trompe, mais suite à cette thèse, a été mise en place une église que vous connaissez, une structure, la Maison de l'Espérance, c'est bien ça?
Alors, disons que, effectivement, dans mon histoire et dans mon ministère, j'ai eu l'occasion d'être pasteur dans une église plutôt classique, ensuite responsable des jeunes, et dans ce rapport avec les jeunes, j'ai senti qu'il y avait une soif de la part d'un certain nombre, en tout cas, d'entre eux, pour une église un petit peu plus contemporaine, plus moderne, avec voilà. Et donc à ce moment-là, en accord avec la fédération qui m'employait, on a mis en place effectivement une église innovante. C'est à la suite de ça seulement que, dans le désir de creuser un petit peu, j'ai poursuivi et j'ai développé ma réflexion que j'ai élargie autour de d'autres églises innovantes et même parfois beaucoup plus radicalement que l'Église de l'Espérance, qui se situe effectivement à la Maison de l'Espérance. La Maison de l'Espérance étant venue dans un deuxième temps.
D'accord, ok. Alors voilà, je pense que comment expliquer. Nous avons maintenant, une fois que la présentation est faite, nous pouvons commencer notre petit moment d'échange. Et donc, je laisse la place à Cathy.
Oui, alors Gabriel, alors pour la petite histoire, un sabbat matin, David m'a dit, écoute, j'ai entendu une prédication qui m'a beaucoup parlé et j'aimerais que tu l'écoutes. Et en fait, quand je lui ai demandé le titre, il m'a dit l'Église liquide. C'était ça ?
C'était ça. En fait, c'était une prédication que Radio Dynamic Life avait eu l'occasion de diffuser, de retransmettre de l'église en direct de l'église de Versailles.
Voilà. Et alors, pour ceux, alors moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, mais pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu ce concept, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que l'Église liquide ?
Alors, bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est un concept, mais c'est vrai que c'est une appellation qui peut décrire un aspect ou une certaine vision, une invitation finalement qui est faite aux églises. C'est vrai que souvent, on imagine, on conçoit l'Église comme étant une forteresse. C'est en partie dû au fait que souvent, on fait l'association entre l'Église corps du Christ, l'Église communauté qui rassemble des croyants, des chrétiens, des disciples de Jésus, et le bâtiment dans lequel ces disciples, ces chrétiens, ces membres d'Église, si on peut dire, se réunissent. Et dans ce sens-là, c'est vrai que donc l'idée d'un bâtiment, parfois même d'une forteresse, où on cherche à se protéger contre les attaques du mal qui viendrait du monde, voilà, c'est qu'on a parfois dans l'histoire, et peut-être les églises minoritaires en particulier, ont eu tendance à parfois d'une certaine manière s'enfermer un petit peu sur elles-mêmes. Au passage, c'est intéressant parce que juste après la résurrection, enfin, juste après la mort de Jésus, qu'est-ce qui se passe pour les premiers chrétiens, ceux qui l'avaient suivi pendant 3 ans et demi de son ministère? Eh bien, le texte en particulier, celui de Jean, nous dit que l'évangile de Jean nous dit qu'ils s'étaient rassemblés dans une maison et qu'ils avaient fermé la porte à clé. C'est finalement très symptomatique de pas mal de chrétiens où, comme ça, avec une très bonne intention, mais on cherche un petit peu à s'isoler pour se protéger des mauvaises influences. Et pourtant, Jésus va traverser la porte, même fermée à clé. Et finalement, qu'est-ce qu'il va leur dire à Jésus dans cet envoi en mission qu'on connaît moins peut-être que celui de Matthieu, dont on pourra peut-être qu'on pourra peut-être évoquer, mais celui de Jean dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Là, il y a un fondement de la mission et de l'évangélisation qui n'est pas de l'ordre de l'attraction, dans une approche attractionnelle, qui est « venez à nous », ou finalement dans notre forteresse, dans nos églises, dans nos valeurs, dans nos conceptions bien établies, on demande aux gens de faire tout le chemin pour venir à nous. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un chemin de la part des gens à faire, mais c'est pas vers nous, c'est vers le Christ. Et notre rôle à nous, c'est d'être envoyé, c'est la définition de la mission, être envoyé pour partager, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Et dans ce sens-là, l'idée de l'Église liquide, c'est finalement une conception de l'Église où, d'une certaine manière, la mission et l'évangélisation sont partie intégrante de l'essence même, de l'ADN, de la raison d'être de l'Église. Finalement, tout ce qui se vit à l'Église, en lien avec l'Église, même pas seulement dans l'Église. C'est-à-dire, c'est intéressant qu'on ait développé ce vocabulaire-là dans l'Église. Le mot, le verbe qu'on utilise pour en lien avec l'Église, c'est souvent je vais à l'Église. Le verbe aller. Et c'est pour ça que vous mentionnez le titre tout à l'heure du livre que j'ai écrit, être et faire Église. Et c'est finalement une invitation à faut pas tout chambouler ou tout critiquer, c'est pas du tout le propos, mais se recentrer peut-être sur l'essentiel et prendre conscience que l'Église, elle n'est pas seulement à un moment donné, dans un lieu donné, mais l'Église, elle est presque, j'ai envie de dire, partout et tout le temps, et c'est dans ce sens-là qu'elle est liquide, parce que on l'enferme pas à un moment donné ou à un temps donné, mais je suis témoin du Christ. Partout où je suis, dans mon travail, dans mes loisirs, quand je fais mes courses, quand je fais du sport, quand je rencontre quelqu'un, quand je vis en tant que chrétien, que je témoigne et je rayonne de Dieu en tant que chrétien. Quelque part, je suis une petite partie du corps du Christ et là où je prête et je témoigne et j'apporte le Christ. Et part, là où je suis, il y a l'Église.
Ouais. Mais aujourd'hui, moi, de mon point de vue, ce que je vois, c'est que c'est pas du tout la vision qu'on rencontre dans nos églises, non? Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un essoufflement ou une cassure un peu avec cette volonté d'évangéliser. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on a plus l'impression qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, on s'attend à ce que les gens viennent à nous plutôt pour nous d'aller vers l'extérieur. Donc du coup, est-ce qu'il y aurait un problème, enfin je veux dire, est-ce que le chrétien d'aujourd'hui a envie de partager, d'évangéliser?
Non, je ne sais pas, ça dépend des uns et des autres, bien sûr. Moi, je croise des gens, il faut le dire, qui sont très engagés dans l'évangélisation et qui sont prêts à être présents. Dans l'introduction, il était évoqué là, des campagnes d'évangélisation, on ne trouve pas toujours beaucoup de volontaires, et c'est bien sûr vrai, mais il y en a même. Mais justement, quelque part, l'idée, c'est quand même que, bien souvent, et dans pas mal d'églises, on laisse le fardeau, c'est comme ça un peu qu'on le conçoit, de l'évangélisation à quelques-uns, ou aux professionnels, aux pasteurs, ou à des conférenciers. Éventuellement, on va donner un petit coup de main pour la logistique, pour l'accueil ou quelque chose comme ça. Alors, je dis pas tout que ces événements, comme un événement, des conférences, etc., sont négatives et qu'il faut abandonner tout cela. Mais je pense que ça a encouragé une certaine défausse de la part des membres qui se sont dit, ah oui, mais il faut être un professionnel, il faut avoir étudié la théologie pour faire des conférences, etc. Jésus, c'était tout sauf des professionnels, des athlètes, un pêcheur, c'est du poisson, hein. Voilà, c'était des gens finalement assez comme tout le monde, assez simples, et ils ont fait des disciples puis des apôtres extraordinaires. Et c'est vrai qu'on a besoin d'une prise de conscience que la mission et l'évangélisation, c'est quelque chose qui devrait être naturel chez tous. Et c'est là qu'il y a vraiment du chemin à faire aussi, parce que l'évangélisation, c'est effectivement pas seulement les gens à l'église, aller à la rencontre des autres, de dialoguer avec eux, leur montrer que ben, nous on vit en tant que chrétiens et que ben on a des problèmes comme tout le monde, on a aussi des joies comme tout le monde, et quand on a des problèmes, peut-être on les vit un peu différemment, avec plus de sérénité. Pas toujours, c'est pas toujours simple, hein, bien sûr, mais on a un plus qui s'appelle Jésus dans notre cœur. Ça a l'air d'être une formule comme ça assez banale, mais qui finalement ben, moi a changé ma vie, et je crois que c'est le cas pour vous et pour finalement tous les chrétiens. Et finalement, on a une approche très utilisante.
Alors, nous avons un problème de connexion. Gabriel, tu nous entends?
Oui.
Allô?
Vous m'entendez?
Oui, alors, on a un peu de coupure, c'est très assuré, si tu peux reprendre tes dernières phrases.
Oui, tu sais qu'on a parfois une approche un petit peu culpabilisante de l'évangélisation, dans le sens où il faudrait absolument faire ceci et faire cela.
Tout à fait.
Alors que je crois qu'il faudrait tendre à prendre conscience d'une chose qui me paraît fondamentale quand on étudie la Bible, c'est que le premier missionnaire, c'est pas nous, c'est pas les humains, c'est Dieu lui-même.
Donc du coup, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que les techniques d'évangélisation habituelles, donc c'est-à-dire porte à porte,
distribution d'imprimés,
etc., est-ce qu'il faut pas tendre plutôt vers une volonté de l'Église de comment dire ça, de témoigner au quotidien auprès de collègues ou autres plutôt?
Alors j'ai envie de dire oui. Maintenant attention, je suis pas en train de dire que le porte-à-porte, les imprimés,
c'est mauvais ou qu'il faut arrêter.
C'est mauvais.
Oui.
Faut comprendre que on est tous différents, et c'est ça, la Bible insiste là-dessus. On a tous des dons spirituels différents, des aptitudes, des caractères différents, des expériences, une ancienneté dans l'Église et des aspirations, des capacités relationnelles qui sont différentes. Et dans ce sens-là, il s'agit vraiment pas de tous devoir faire l'évangélisation pareil. Et quand parfois, mais je l'ai vécu aussi, et puis je l'ai fait en allant un petit peu à reculons, à vrai dire, des campagnes, enfin des sorties missionnaires, parfois le samedi après-midi, pour aller faire du porte-à-porte. Honnêtement, ça n'a pas été que pénible, j'ai parfois eu du plaisir. Mais sincèrement, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas tout à fait en phase avec mon caractère et mes aspirations. Ça veut pas dire que je suis pas prêt à faire autre chose, au contraire, d'ailleurs, je suis très engagé dans l'évangélisation, mais aller comme ça, toquer à la porte des inconnus, pour moi, je l'ai eu fait parce que ça devait se faire comme ça, mais c'est pas mon truc, voilà, on peut dire comme ça. Et à un moment donné, je me culpabilisais en me disant « Ah oui, mais si j'y vais pas, etc. » Et puis, parfois, des leaders de l'Église motivent l'Église, parfois, un peu après les membres d'Église, « Ah, mais il y a personne quand on fait une sortie missionnaire, etc. » moi, aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience que je pense qu'on ne devrait pas forcer les gens. Ça participe de cette culpabilisation, les gens disent « Ah ouais, mais moi, si j'y vais pas, ben, je suis pas engagé. » Alors que finalement, je dis pas qu'il peut pas y avoir des rencontres formidables et des conversions grâce au porte-à-porte. Et j'en connais certains qui aiment faire ça et qui le font très bien, qui ont une capacité à rentrer en contact avec les gens naturels, c'est formidable.
Mais tout le monde n'est pas à l'aise avec cette...
Voilà. Et à ceux qui sont pas à l'aise, faut surtout pas les obliger, me semble-t-il. Et leur dire, mais comment toi tu peux, tu te sens d'être un témoin du Christ? On a tous des styles d'évangélisation différents, à chacun de trouver le sien. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment, vraiment essentiel.
Alors moi, je partage un petit peu un sentiment, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu un problème avec l'évangélisation dans les églises que j'ai un petit peu fréquentées, parce que j'avais l'impression que l'objectif, c'était que la personne vienne à tout prix le sabbat qui suit à l'église. Et en fait, la semaine dernière, je parlais avec un membre de notre association, Mylène, qui travaille aussi à l'E2E. Et en fait, ils font le prayer stop, c'est-à-dire qu'ils ont une pancarte avec écrit prayer stop dessus. Et en fait, sur la place Monge, ils s'engagent à prier pour des personnes qui voudraient qu'on prie pour elles. Et Mylène me racontait qu'elle a prié pour une personne. Et bon, la personne a accepté la prière, hein. Et elle a dit à Mylène, mais attendez, je comprends pas, vous priez pour moi, mais vous m'invitez pas dans votre église. Et Mylène lui a répondu, mon objectif, c'est pas de vous inviter dans mon église. Mon objectif à moi, c'est que vous sachiez qu'il y a Jésus qui prend soin de vous et que moi, je m'engage à intercéder pour vous, pour votre problématique. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, je sais pas. Moi, j'ai un petit peu comment dire ça, comme tu le dis, normalement, on devrait pouvoir témoigner avec nos collègues, etc. Et je pense que ce serait d'ailleurs la plus grande campagne d'évangélisation qu'on pourrait faire. C'est-à-dire, si chacun prenait le parti de dire à ses collègues ce que Dieu avait fait pour eux, enfin voilà, ça ferait peut-être quelque chose. Mais par exemple, je parlais de ça avec une personne d'un certain âge qui était choquée. Donc en fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a des limites dans l'évangélisation? Est-ce que on... Alors, je ne peux pas dire est-ce qu'on peut tout faire pour évangéliser, puisque la question serait non. Mais est-ce qu'il y a des limites dans l'évangélisation?
Alors, oui, je crois qu'il y a des limites. Il y a des limites qui est le respect de la liberté d'autrui, qui est le fait d'être juste à proposer. Enfin, en tout cas, pour moi, je pose des limites. C'est vrai que parfois... avec une bonne intention, on veut absolument avoir des résultats, etc. Et d'une certaine manière, on serait presque prêt à tout pour avoir des résultats. Dans certains contextes, d'ailleurs, hein, eh bien, les pasteurs sont jugés en fonction du nombre de baptêmes. Ça me paraît un petit peu discutable. Alors, je dis pas que c'est pas un critère qui peut être regardé, mais
qui soit pas déterminant.
Voilà, il y a une certaine aujourd'hui l'évangélisation. Il me semble assez évident qu'elle est prioritairement relationnelle. D'ailleurs, quand on fait des études statistiques auprès des convertis, des nouveaux convertis, de ceux qui sont fait baptiser ces dernières années dans les églises, il y a un pourcentage incroyable, qui est ultra majoritaire, pour savoir comment ils sont rentrés en contact finalement avec l'église, et c'est au travers d'un ami, d'une relation. Et parfois, on dépense de l'énergie incroyable, de l'argent de manière importante pour faire des affiches, des annonces de manière impersonnelle. Et aujourd'hui, en tout cas dans le contexte occidental, européen, en tout cas, que je connais le mieux, je sais que dans d'autres pays et dans d'autres cultures, c'est pas forcément toujours le cas, même si je pense que c'est en train d'être de plus en plus généralisé. Mais aujourd'hui, vous faites des annonces comme ça, par affiche, par prospectus dans les boîtes aux lettres, et vous avez très très peu de personnes aux réunions publiques qui sont organisées. Par contre, si c'est votre ami, votre collègue, votre voisin que vous avez, vous connaît parce que vous êtes devenu son ami, alors là, c'est différent. Dans ce sens-là que l'évangélisation, elle passe pas seulement par « je place mes salades et j'invite absolument à l'église dès le samedi prochain », comme vous dites, hein, mais ça passe par « j'aime les gens, je me fais des amis ». Je montre que je suis attentionné, j'ai prié pour les gens. Voilà, je pense à cette parole que Dieu a adressée à Abraham dans Genèse chapitre 12, où il dit « toute ta descendance sera bénie », etc. « Et tu seras béni, je te bénirai ». On trouve 5 fois le mot « bénir » là-dedans. C'est intéressant, il y a une insistance sur la bénédiction. Et parfois, j'ai l'impression qu'en tant que membre d'église ou en tant que croyant, on est à la recherche de cette bénédiction. Et on a raison. Mais on oublie parfois la fin du verset 3 de Genèse 12, là. Pourquoi est-ce que Dieu bénit Abraham et sa descendance ? Pour que toutes les familles de la terre soient bénies en lui. Et je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel ici, qui correspond à une certaine vision de l'évangélisation. Oui, je demande à Dieu de me bénir pour que je sois bénédiction pour ceux qui m'entourent. Et pas seulement, même pas d'abord, d'une manière intéressée, dans le sens que j'aurais, c'est de l'aider et de la faire venir à l'église, etc. Si je l'aime sincèrement, cette personne, si je témoigne auprès d'elle, eh bien, c'est probablement un travail de longue haleine, parfois. C'est intéressant, parce que si on analyse, d'ailleurs, les conversions, il me semble que la majorité des conversions se passent à un moment de crise dans la vie d'une personne.
Ouais, ouais.
Alors ça peut être une crise négative, une maladie, la mort d'un proche, une perte d'emploi, que sais-je encore, voilà. Ou alors une crise positive, hein, un mariage, un nouveau boulot, un déménagement, ou une crise neutre, voilà, un déménagement c'est peut-être plus neutre, une chose comme ça. Ou la naissance d'un enfant, par exemple, dans un élément positif, je me souviens de quelqu'un qui... je suis entré en contact parce qu'on était devenus amis, et puis le jour des enfants, cette dame, elle me dit « Ah voilà, mes enfants commencent à grandir, ils ont 3-4 ans, je commence à parler avec eux, ils commencent à me poser des questions. Moi, j'ai fait le catéchisme quand j'étais petite, et j'aimerais bien que mes enfants aient une éducation religieuse. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose ?» Et voilà, plusieurs années avant, j'étais rentré en contact avec cette personne, une confiance était née. Et puis, ouais, il a fallu attendre l'occasion qui a fait que j'ai été sollicité pour étudier la Bible avec toute la famille, finalement, les enfants, et puis évidemment les parents en même temps. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment une manière d'être de longue haleine, si on peut dire. C'est vrai que notre société nous pousse à avoir du résultat tout de suite, les modèles des entreprises actuelles, c'est ça.
Mmh.
Je crois qu'il s'agit pour nous de rentrer dans le temps de Dieu et de comprendre que finalement, c'est pas à nous de maîtriser. Peut-être qu'à un moment donné, je vais semer, un autre fera croître, et puis encore un autre va moissonner.
D'accord. Alors, pour aller surtout dans ce sens, tu parlais, enfin, tu employais le terme travail. Pour reprendre ce que tu disais par rapport au fait que être une bénédiction aujourd'hui pour nos contemporains, c'est une forme d'évangélisation, mais est-ce qu'au fond de nous, il faut qu'il y ait quand même ce fil rouge de se dire que l'objectif in fine est de l'amener à Christ, ou est-ce que simplement je lui témoigne de l'amour en continu et je regarde ce qui se passe, en fait? Est-ce que, je sais pas si je me suis fait comprendre?
Oui, alors, c'est très très bien, c'est très... Je m'attendais à... l'amener à... Et j'avais peur que tu dises l'amener à l'église. C'est intéressant parce que tu as dit l'amener à Christ. Et quelque part, je crois qu'il y a un principe qui est essentiel là. Et si je dis ça, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que parfois on risque, il existe ce risque de perdre la conscience que l'objectif c'est pas d'amener les gens à l'église, c'est de les amener à Christ.
Mm-hmm.
C'est vrai que quand on les amène à Christ, on les amène, enfin, ils font partie du corps du Christ, donc de l'Église. Donc ça va de pair, si on peut dire. Mais l'objectif, c'est d'en faire des disciples du Christ.
Mmh.
Quand on va être en contact avec les gens, est-ce que tout de suite on va se dire je veux qu'ils deviennent disciples du Christ? Honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui devrait même ne pas être dans notre pensée, parce que si on prend des très très terre à terre. Je sais pas, tout d'un coup vous apprenez que le magasin de vêtements que vous préférez, qui sont de super qualité et en plus très beaux, offre toute la semaine tous ces vêtements. Voilà, vous avez des amis, est-ce que vous allez leur partager cette bonne nouvelle? Évidemment. Vous allez leur dire, ah, tu devrais aller dans tel magasin parce que les vêtements sont gratuits cette semaine. vous n'avez, vous réfléchissez pas, vous ne réfléchissez pas en disant, bon, est-ce que je leur dis, est-ce que ça va vous intéresser, etc. Non, vous avez envie de partager cette bonne nouvelle. Après, ils en feront ce qu'ils voudront. Ils auront le temps, ils aimeront ou pas, etc. Vous respecterez leur liberté. Mais c'est la même chose finalement. Alors, je vais partager la bonne nouvelle que moi j'ai un trésor. Et plus je le partage, plus j'ai de la valeur finalement, et il s'appelle Jésus-Christ. Donc c'est pas, je perds rien si je le partage, au contraire. Et donc d'une certaine manière, oui, je vais le partager, mais pas de n'importe quelle manière et pas d'une manière insistante, obligeante. Et j'ai peut-être juste montré par ma vie que finalement, je, mais c'est beau, ça donne du sens que de croire en Jésus-Christ.
D'accord. Alors, excuse-moi, Cathy, vas-y.
Oui, en fait, si j'entends bien, si on n'a pas ce désir d'aller vers l'autre, de témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est clairement qu'il y a peut-être un problème dans notre vie spirituelle, c'est ça?
Alors, je suis vraiment pas apte et je ne veux pas être celui qui juge.
Oui, oui, non, non, sans jugement, c'est-à-dire que dans ce que tu dis,
c'est clair que...
voilà. Dans ce que tu dis, c'est que quand tu prenais l'exemple du magasin, c'est que quand quand on vit quelque chose qui est bon, on le partage. En tout cas, une bonne nouvelle, voilà. Donc, par exemple, moi, j'ai passé des années à aller dans l'église sans vouloir forcément parler de Dieu ou etc., etc. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, moi, à l'instant T, j'étais bien. En fait, j'avais une bonne... Ma relation, pour moi, me semblait correcte. Mais aujourd'hui, avec ce que tu me dis, je me demande si, effectivement, il n'y avait pas quelque chose qui... Bon, peut-être qui n'était pas encore arrivé à maturité, j'ai envie de dire, mais... voilà, peut-être un raisonnement, enfin, des questions que j'aurais peut-être dû me poser sur pourquoi je suis chrétien. Et si Dieu fait vraiment quelque chose dans ma vie, pourquoi alors c'est si difficile? Peut-être par rapport à la honte, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué de parler de Dieu, c'est difficile. Je sais pas, à l'école, même au niveau des collègues, c'est assez compliqué. Donc la question aujourd'hui, pour moi, c'est que il faut adapter l'évangélisation aux personnes qui nous entourent. C'est-à-dire que des personnes seront réceptives à des tracts, mais d'autres seront réceptives à un groupe de maison, par exemple. Et aujourd'hui,
absolument,
le mot d'ordre, c'est il faut s'adapter en fait, sans forcément. Alors, je vois déjà un petit peu peut-être la tête des auditeurs, c'est s'adapter sans perdre notre identité.
Alors, on est bien d'accord, mais notre identité, justement, elle se construit dans notre relation avec Jésus-Christ. Alors, on évoquait tout à l'heure des envois en mission. Il y a celui de Matthieu qui est très connu, qui, au passage, tout le monde va dire, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est vrai que ça, c'est la part qui concerne l'humain. Mais la phrase de Jésus, enfin, la parole de Jésus, à ce moment-là, elle commence avant. Et qu'est-ce que Jésus dit ? « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et ensuite, ça finit par « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, fin des temps. » C'est-à-dire que au départ, dans cet envoi en mission, la première chose que Jésus dit, c'est « Tout pouvoir m'a été donné ». Comme s'il voulait dire, finalement, ce que vous pourrez faire, ce n'est qu'en vous appuyant sur ma puissance à moi. Et je suis présent partout, au ciel, sur la terre, jusqu'à la fin. Donc finalement, c'est entouré de la toute-puissance et de la toute-présence du Christ que nous, on peut faire quelque chose. Mais donc, on a évoqué l'envoi en mission dans Jean, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, et c'est là qu'on est finalement ni plus ni moins, et c'est pas rien, hein, invité à essayer de ressembler à Jésus-Christ, montrer l'amour qu'il avait pour ses contemporains, et est-ce que lui... prêcher de manière directe tout de suite en essayant de récupérer les gens. Bien sûr, à des moments, il prêchait bien, il prêchait pas toujours dans le sens du poil, hein. De temps en temps, il remettait un peu en question les choses, mais toujours, auprès de ceux qu'il rencontrait, il guérissait, il prenait soin, il nourrissait, il écoutait, il dialoguait. Et ça, ça me paraît essentiel. Et dans un autre envoi en mission, tel qu'on le trouve dans sous la plume de Luc dans le livre des Actes, c'est extraordinaire ce texte de Actes chapitre 1, versets 8 et 9. Ça commence par une question que les disciples posent à Jésus. Ils sont là devant le temple de Jérusalem, et Jésus a dit qu'il reconstruirait le temple. Alors il lui pose la question, quand est-ce que cela va arriver? Et Jésus, d'une certaine manière, excusez-moi l'expression, leur abaisse le caquet. Il dit, eh ben, écoutez, ça c'est pas votre problème, c'est le problème de Dieu. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu la tentation, de temps en temps, on a bien envie de se mettre à la place de Dieu, d'essayer d'être dans le contrôle des choses. Alors finalement, la vie chrétienne, y compris l'évangélisation, c'est se mettre sous l'autorité de Dieu, c'est laisser Dieu être le maître de toutes choses et agir. Ensuite, Jésus continue en disant, « Mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est extraordinaire parce que c'est pas un impératif, ça, c'est pas un ordre. C'est une affirmation, c'est ni plus ni moins qu'une promesse. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et c'est là qu'on en revient à la discussion, enfin au cœur de ce que tu évoquais là tout à l'heure, dans le sens où finalement, c'est quoi être un témoin ? C'est avoir vécu un événement, avoir vécu quelque chose, avoir pu observer quelque chose, rencontrer quelqu'un. Et donc c'est dans la mesure de ce que je vis avec Jésus, que je peux devenir un témoin de cela autour de moi. Si je suis là à juste réciter un truc, à essayer de répéter des doctrines auxquelles je suis pas sûr d'avoir tout compris, etc., ça va pas faire long feu. Mais c'est, d'une certaine manière, à l'intensité de cette expérience spirituelle, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit, de cette communion avec Dieu par le Saint-Esprit et donc à la suite de Jésus, de ce que je vis avec Jésus, que du coup, ben, quelque part, ça va se voir, et puis je vais pas pouvoir m'empêcher d'en parler, et du coup, je serai un témoin.
D'accord. Alors, nous commençons à recevoir des remarques ou des questions d'auditeurs. Est-ce que tu préfères finir de développer, ou est-ce qu'on peut déjà commencer à en parler ?
Non, ça peut se faire dans le dialogue, d'accord. Au contraire.
Alors du coup, je laisserai William se faire la voix des auditeurs. C'est pas dit, William.
Merci, David. Bonsoir, Gabriel. Effectivement, les auditeurs envoient leurs questions, leurs remarques toujours. Je précise le numéro au 07 68 08 46 44. Et on a un premier message qui disait ceci. Je pense que le premier moyen d'évangélisation aujourd'hui, à savoir, c'est notre comportement. Voilà, la personne rajoutait, il ne suffit pas d'avoir de belles paroles à dire aux autres si nous-mêmes nous ne les suivons pas. Notre manière d'affronter le monde montrera aux autres que Dieu est avec nous et que nous avons décidé de le suivre. Donc voilà, c'était un premier élément pour participer à cet échange. Et j'ai également...
Est-ce que je peux réagir à ça?
Bien sûr, largement, bien sûr.
Pour approuver, vraiment pour approuver, dans le sens que je crois que c'est vraiment tout à fait important. Maintenant, je me permets quand même de dire que parfois notre comportement ne suffit pas. Et c'est intéressant que dans la Bible, il y ait ces deux mots-là qui sont d'une certaine manière un petit peu interchangeables, mission et évangélisation. Littéralement, mission, ça vient du latin missio qui veut dire envoyer. Et donc quelque part, je suis envoyé, c'est dans ce sens-là qu'il y a cette idée d'église liquide où c'est pas attractionnel, mais c'est moi qui vais à la rencontre de l'autre, je prends l'initiative d'aller le rencontrer. Et finalement, en me faisant des amis avec les autres, effectivement, j'ai peut-être pas d'entrée à être là, à dire « Écoutez, c'est moi qui arrive, je suis chrétien, et j'évangélise, convertissez-vous, etc. » Non, mais par mon comportement, les gens vont se rendre compte que « Ah ben oui, il y a peut-être quelque chose de spécial. » Maintenant, l'évangélisation... Euangelizo, hein, en grec, c'est annoncer la bonne nouvelle. Et dans ce sens-là, je pense, malgré tout, que notre comportement doit aller de pair, peut-être dans un deuxième temps, mais ne pas négliger la dimension de la parole. Et pas comme quelque chose d'imposant, de comment dire, où on va devenir lourd, quoi, si on peut dire. Mais parfois, juste en passant. Allez, je prends juste un exemple. Imaginez une situation, on est au boulot là cet après-midi. Alors moi j'habite dans les montagnes, hein. Alors imaginez que bon, j'ai pas un boulot dans l'entreprise, mais si j'en avais un, et mon collègue me dit ah tiens, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Alors je pense qu'il y a pas mal de chrétiens adventistes qui pourraient dire, donc les adventistes qui observent le sabbat, hein, ce qui est pas forcément toujours populaire ou compris par tous, vont dire ah ben dimanche je vais aller skier, voilà. En omettant, par peur de susciter des questions, de dire ben, « demain, je vais aller vite ». Mais moi, je pense que il s'agirait peut-être tout simplement de répondre, et ce serait un début de témoignage, finalement, en tout cas de laisser savoir qui je suis, et mon identité, mais sans rien imposer. « Oh, ben, demain, je vais à l'église, et dimanche, je vais skier ». Juste en passant comme ça, sans rien dire de plus. Et puis, alors là, personne posera une question à ce moment-là, ou sûrement pas, d'ailleurs. Mais peut-être plus tard, elle aura enregistré. Mmh. Ah, celui-là, il m'a dit qu'il allait à l'église. Tiens, c'est pas super à la mode, ça, mais bon. du coup, elle va peut-être se mettre à vous observer d'une manière différente et commencer à se rendre compte qu'il y a quelque chose de spécial en vous. Donc, il s'agit, à un moment donné, d'agir, d'être. Hein,
de marquer la différence.
Qui témoigne par son style de vie. Mais aussi d'oser parler, d'oser dire, et de savoir témoigner. Et c'est vrai que y a un auteur que j'aime bien, que j'ai lu pas mal, qui s'appelle Leslie Newbegin, c'est un anglais, et il développe, alors c'est une expression un petit peu complexe, mais je la dis quand même si certains sont intéressés ou veulent creuser, il dit, aujourd'hui, il faudrait que l'Église soit une herméneutique de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? L'herméneutique, ça pourrait se traduire, c'est un mot compliqué, mais qui veut dire un petit peu l'interprétation, si on peut dire. Mmh. Et du coup, Newbegin, il dit, finalement, dans nos sociétés contemporaines, la majorité des personnes qui sont hermétiques à l'Évangile, qui n'arrivent pas à comprendre, on peut leur raconter des histoires de la Bible, ça va leur passer au-dessus. Mmh. C'est un peu difficile au premier abord de comprendre comment un homme, aussi super soit-il, qui en mourant sur la croix nous sauve. C'est pas forcément compréhensible par tout le monde, hein. On n'est pas dans une culture où c'est évident, ça. Et donc, Newbegin, il dit, et je crois qu'il a raison, il n'y a pas que lui qui le dit, d'ailleurs, hein. Mais il dit, ben voilà, finalement, le but, c'est pas simplement d'aller raconter, de faire lire les versets bibliques aux gens, mais finalement que les versets bibliques deviennent vivants, incarnés en nous. Et que par notre manière d'être, notre comportement, pour reprendre la parole de cet auditeur, ben finalement, il y a un témoignage qui commence à passer.
Alors, merci, merci beaucoup pour ce complément par rapport à cette remarque. Et j'ai une question. Est-ce que l'évangélisation contemporaine, ce ne serait pas l'aspect pratique face à une théorie? Je précise cette question parce que j'ai également un auditeur qui dit que nos pionniers étaient des gens, entre guillemets, hyper engagés sur les questions sociales, médicales. Leur croyance est poussée à chercher le bien partout, et nous, aujourd'hui, nous sommes indifférents. Alors, est-ce que, justement, l'évangélisation contemporaine, c'est pas de rajouter un peu plus de concret, un côté plus pratique à l'évangélisation, qui serait un peu plus... pour décrire, quand on a parlé au début des tracts, aux Antilles par exemple, on a des grandes campagnes d'évangélisation un peu bien réarchisées, bien cadrées. Et du coup, est-ce que l'évangélisation contemporaine qui vient un peu bousculer tout cela, ce serait pas rajouter un peu plus de pratique, de concret? Et est-ce qu'on peut résumer comme ça l'évangélisation contemporaine?
Je pense effectivement aller proposer aux gens de prier sur la place Monge, comme ça a été évoqué tout à l'heure, ou se mettre tout d'un coup, aller le dimanche matin, se mettre à un endroit et proposer aux gens, vous voulez qu'on lave votre voiture gratuitement, ou juste aimer les gens, rendre service, proposer d'aller faire les courses pour les personnes âgées, y a plein de choses qu'on peut envisager qui est de l'ordre de la compassion, de l'amour, de ce que Jésus a fait aux autres. Et aujourd'hui, effectivement, je pense honnêtement que c'est plus efficace que de mettre des tracts dans des boîtes aux lettres. C'est des tracts vivants, par des actes vivants et concrets, réels, d'amour pour l'autre. Et les gens vont se dire, mais pourquoi vous lavez ma voiture gratuitement? Je sais pas, parce que moi j'ai reçu gratuitement l'amour de Dieu et ça me pousse à aimer mon prochain. Et donc on est content de faire ça pour vous. On s'est dit que ça ferait plaisir et que c'est une belle société si tout le monde faisait comme ça. Donc on fait ça pour vous. Je pense que ça laisse pas les gens indifférents. Voilà, ce serait un exemple. Et donc j'abonde dans le sens de dire oui, effectivement, c'est de manière concrète, très pratique de faire. Alors peut-être je peux rajouter quand même que les pionniers ou les anciens faisaient des vandalisations, avaient des résultats. Ce qui me semble intéressant, c'est que le monde dans lequel ils vivaient n'est pas le même que le nôtre. Et ça, il faut en prendre acte quand même. Il y a un facteur qui est très important, qui diffère, c'est que la société d'il y a 100 ans, ou 150 ans, hein, au début de l'Église adventiste, par exemple, la société était, en tout cas aux États-Unis, en Australie, en Europe, là où l'adventisme s'est développé, tout le monde était chrétien. C'était les pays chrétiens. Alors, plus ou moins pratiquants parfois, plus ou moins, enfin, peut-être à l'église, et puis certains n'en pensaient pas moins. C'est possible, hein, bien sûr. Mais en gros, dans toute la société, pratiquement tout le monde avait une étiquette confessionnelle. Et du coup, l'évangélisation, ça correspondait, enfin, l'objectif de l'évangélisation, c'était quoi? C'était essayer de montrer que, ben, là où les autres pouvaient dire ça, hein. Nous, on a la vérité. Nous, on a une meilleure interprétation de la Bible. Si vous me permettez de reprendre l'idée de la pêche, qui est une image qui est employée par Jésus, hein, pour parler de l'évangélisation, bien finalement, tout le monde était déjà dans les églises, comme je le disais, donc j'ai comparé ça avec des aquariums, on essayait d'aller pêcher dans l'aquarium d'à côté pour montrer que l'eau dans l'aquarium, notre aquarium, est plus pure, plus transparente, plus oxygénée, plus que tout ce que vous voulez. Et d'une certaine manière, toutes ces conférences, ces campagnes qu'on a faites, encore jusqu'à pas longtemps, voire encore maintenant, dans certains endroits, elles sont fondées sur cette approche-là, cette dynamique-là. On fait des conférences où on présente les doctrines, on essaie de montrer que nous avons raison, nous avons une bonne interprétation. Et c'est vrai en plus, hein, je le crois en tout cas. Sauf que, ce faisant, c'est une approche qui est adaptée pour d'autres chrétiens engagés qui pourraient se rendre compte que l'eau est plus pure chez nous. Sauf qu'on n'a pas pris conscience qu'en fait, la majorité des aquariums d'à côté, il n'y a plus beaucoup de poissons dedans. Et que la majorité des poissons aujourd'hui vivent en eau vive. Ils sont en eau vive et que c'est pas justement en montrant que l'eau est plus pure dans notre aquarium qu'ils vont avoir le désir d'y rentrer. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Image, bien sûr, avec ses limites, mais d'une certaine manière, c'est dans le sens-là que ça veut pas du tout dire que partager nos croyances n'est pas une étape indispensable et importante dans le processus d'évangélisation. Et ça veut dire que peut-être que plutôt que de rester dans notre aquarium et de crier avec un haut-parleur « Venez chez nous, l'eau est plus pure », il s'agit pour nous de plonger dans l'eau vive et d'aller à la rencontre des poissons là où ils sont et pour leur montrer que c'est chouette de tout ce qu'on vit. Voilà.
C'est tellement vrai ce que tu dis que c'est vrai que moi j'ai grandi dans une église où en fait toutes les campagnes étaient, enfin pas toutes, ce serait exagéré, mais c'est vrai que les campagnes d'évangélisation etc étaient très orientées sabbat. Et en fait un jour j'ai invité un évangélique qui m'a dit mais c'est fou quand même comment vous accentuez vos évangélisations sur les doctrines sans même parler de Jésus au préalable, sans en fait le présenter. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, les campagnes d'évangélisation qu'on faisait s'orientaient plutôt vers un public déjà chrétien. Or aujourd'hui, comme tu l'as si bien souligné, si c'est si difficile aujourd'hui, c'est très clairement parce que le public a changé pas d'identité, mais on s'adresse plus au même public. Donc forcément, il faut adapter. Donc ça passe par l'évangélisation de proximité en fait. Rapport au voisinage ou des cas pratiques de soutien, d'entraide ou autre.
J'allais dire le pire, mais en fait c'est le meilleur. Le meilleur, c'est que les caractéristiques de notre identité, je crois, sont d'une pertinence extraordinaire aujourd'hui. Si on prend l'exemple du sabbat qui était évoqué là, la majorité de nos contemporains, ils n'ont plus le temps de rien. Ils vivent dans un stress continu. On n'arrête pas. Alors parfois on est stressé, on n'a pas le temps parce qu'on remplit de choses qui sont pas forcément très utiles, hein, en nombre d'heures de surf sur internet, de smartphone, de télé ou d'autres, de séries vidéo. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Mais bref, la société nous formate avec ça, ce qui fait que entre le boulot, les transports, les courses, les loisirs, etc. On a le temps de rien. Et le sabbat, c'est quoi? C'est un anti-stress, finalement. C'est-à-dire, à un moment donné, pose-toi. Dieu a prévu que tu puisses prendre un temps pour vivre un peu autrement, pour prendre de la hauteur. Mais c'est un message qui est d'une pertinence pour nos contemporains extraordinaire. Le message de la santé, mais alors on était avant-gardiste. Des fois, j'ai l'impression qu'il se perd un petit peu. Alors peut-être qu'on était un peu trop radical à certains moments, un peu intolérant. Mais on a des atouts magnifiques. Dans, en termes d'écologie, par exemple, c'est formidable. La vision holistique de l'être humain, c'est fabuleux. Enfin voilà, quelque part, nos spécificités, nos identités, en les présentant pas seulement ou pas d'abord ou pas forcément d'une manière purement doctrinale, mais d'une manière très existentielle et pragmatique,
ça passe ce sont
des atouts magnifiques.
Alors, William, nous avons d'autres questions peut-être ?
Une remarque, un avis d'un auditeur qui dit « Je pense qu'il nous faudrait, entre guillemets, adventistes du septième jour, reconsidérer notre conception de l'évangélisation. Jésus nous demande d'aller, donc avec la force qu'il nous donne. Et cette personne te rejoint en disant que nous devons juste semer, Dieu se chargera du reste. En précisant tout de même que nous voulons trop souvent avoir rapidement du résultat, ce qui nous emmène parfois à des maladresses dans nos contacts avec les autres, même si au début l'intention est bonne. »
Oui, alors je me situe vraiment tout à fait là-dedans. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Vous serez mes témoins » et le sous-titre c'est « Une invitation à participer à la mission de Dieu ». Et dans ce petit livre, j'essaye de faire tout un parcours dans la Bible pour essayer de comprendre et de saisir qu'est-ce que c'est que l'évangélisation, comment elle est présentée, la mission, l'évangélisation, comment elle est présentée dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, et puis ensuite chez Matthieu, chez Jean, chez Luc, Actes, et puis chez Paul. J'essaye de montrer finalement le fil conducteur de cette recherche et de cette exploration biblique, c'est que la mission, c'est d'abord celle de Dieu. Et je vais peut-être juste mentionner ce qui pour moi est le paradigme de cette idée-là, qui se trouve dans Genèse, au chapitre 3, juste après le péché. Parce que c'est le péché finalement qui rend nécessaire la mission. Avant, il y avait une telle communion entre Dieu et les hommes, Adam et Ève en l'occurrence, que ben il n'y avait pas besoin de mission, quoi. Il y avait une communion, une harmonie. Mais à partir du moment où le péché fait irruption sur cette terre, eh bien il y a une séparation, d'où la nécessité d'une réconciliation, et si bien ça, d'une reconnexion, si on peut dire. C'est ça l'objectif de l'évangélisation, finalement, de la mission, de faire que ben on se raccroche, on se rattache à Dieu, on se reconnecte à Dieu. Or, juste après le péché, qu'est-ce qui se passe? Dieu va voir Adam et Ève. Et ils ont conscience qu'ils sont nus, alors ils ont caché leur nudité avec des ceintures faites de feuilles de figuier, et ils vont se cacher. Et là, Dieu entre en scène, et c'est le Dieu missionnaire qui rentre en scène, le Dieu qui s'envoie lui-même, qui va à la rencontre, qui cherche Adam et Ève, et qui leur adresse cette phrase, cette question, « Où es-tu ? » Où es-tu ? Et je crois que ce « Où es-tu ?» c'est finalement le paradigme du Dieu missionnaire. Et on se rend compte que ensuite avec Abraham, ensuite chez les prophètes, avec Jonas et puis Jésus qu'il modélise, c'est finalement vraiment l'action de Dieu qui est première, de le Père dans l'Ancien Testament, le Fils Jésus-Christ pendant son ministère, le Saint-Esprit qui contribue finalement à la mission. Et nous, on a un rôle à jouer là-dedans, mais c'est qu'un rôle de partenaire finalement. C'est pour ça que finalement la mission de Dieu, c'est ni plus ni moins qu'une invitation à participer à sa mission. Il y a une phrase que j'aime bien, qui dit que Dieu n'a pas une mission pour son Église, mais une Église pour sa mission. Vous voyez la distinction? Je répète peut-être parce que c'est... Dieu n'a pas une mission pour son Église, mais une Église pour sa mission. Je crois que dans l'introduction, vous disiez que le but, parfois on cherche à faire venir l'Église ou les gens à l'Église, et que le but c'est de les faire venir à Jésus-Christ, mais que l'Église peut être un canal. Et je crois que c'est tout à fait juste, un canal ou un moyen finalement. L'Église n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour permettre, pour faciliter la relation entre ceux qui sont déjà croyants, engagés, mais aussi ceux qui ne connaissent pas d'un jour rencontrer Dieu. Et je crois que cette approche-là, cette compréhension que Dieu s'occupe de toute chose et que je suis juste son partenaire, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Est-ce que pour conclure un petit peu tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on peut dire que une église, alors quand je dis l'église, c'est pas une personne, hein, c'est une communauté de personnes qui constitue le Christ, une église qui voilà, met un mot d'ordre à voir tous ces programmes un petit peu liés à l'évangélisation, c'est une église qui a appris à aimer les autres ou qui veut aimer les autres. Parce qu'en fait, ce que moi j'entends, c'est que quand on aime, eh ben on évangélise en fait. C'est aimez-vous les uns les autres, c'est, je pourrais dire que ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit.
Mais absolument. Et c'est la raison pour laquelle nos églises, là je pense nos communautés locales, hein, ou notre église si on peut dire, ou n'importe quelle église finalement, je crois qu'elle devrait être une église pour les autres. Quelqu'un un jour qui a dit... L'Église est la seule association qui existe pour le bénéfice de ses non-membres. Alors, je suis qu'à moitié d'accord, parce que d'une certaine manière, c'est très beau l'édification qu'il y a à l'intérieur de l'Église. Et être membre d'une Église, s'y engager, participer, venir au culte, etc., on est nourri, on est édifié, et c'est important. Mais je crois qu'il y a une vérité derrière cette idée d'être une Église pour les autres, au bénéfice de nos non-membres. Et je crois qu'on gagnerait à reconfigurer un petit peu nos modes de fonctionnement ecclésiaux en intégrant le fait que dans toutes nos activités, dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons finalement, on devrait penser à ce que ça puisse être adapté à des personnes qu'on connaît et qu'on aurait peut-être plaisir à inviter. Que ce soit les activités de jeunesse, les activités des départements, et même le culte. On en parlait, je crois que vous en parliez dans l'introduction, les cultes contemporains, c'est quoi? Est-ce que c'est légitime et nécessaire? Moi, je suis convaincu que le culte, c'est un moment d'évangélisation extraordinaire. On s'adresse à Dieu, on le loue, on le chante, on écoute sa parole. Un culte, c'est un moment radioactif de la présence de Dieu. Et quelqu'un qui viendrait à un culte, s'il est beau, s'il est authentique, s'il est bien préparé, si on fait attention à ce que tout ce qui est dit soit compréhensible, si l'accueil aussi est en conséquence, où on fait pas comprendre que c'est juste un truc réservé pour une certaine élite, etc. Mais c'est quelque part toute une attitude d'être où finalement on cherche pas à édulcorer les choses, à être trop soft. Oui, on cherche à utiliser des mots compréhensibles par tout le monde, mais en donnant de la profondeur à notre message, et que ce soit existentiel et que les gens se disent « Ah ben oui, ça me parle ». Aujourd'hui, les gens sont sceptiques par rapport aux institutions en général et aux institutions religieuses en particulier. Par contre, je crois que ce scepticisme-là n'empêche pas, au contraire, la soif de spiritualité. Je crois que si on pouvait mieux y répondre, je pense qu'on aurait, on ferait des grands pas dans la réalisation de l'évangélisation.
Alors nous avons une dernière question. William, je te laisse la poser.
Oui, effectivement. Voilà. Est-ce que le problème des moyens d'évangélisation n'est pas qu'ils restent figés dans le temps, puisque par définition, est-ce que tu peux confirmer ou pas que l'évangélisation contemporaine existe depuis des siècles, puisque là je discutais en hors antenne avec des auditeurs qui pensent que l'évangélisation contemporaine existait également à l'époque d'Ellen White, existait également un peu plus dans la fin des siècles un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut pas dire que l'évangélisation contemporaine c'est juste une mise à jour d'évangélisation par rapport au siècle d'aujourd'hui?
Alors j'ai envie de répondre oui et non. Oui, sur le principe que finalement il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vais peut-être conclure là avec une citation. C'est oui, hein, nouveau sous le soleil et finalement il suffit de reproduire, enfin il suffit, c'est à dire, pas facile à faire. Il s'agit d'essayer de reproduire ce que Jésus a dit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit-il. Hein. Mais en même temps, on vit pas dans le même monde et c'est là qu'il y a aussi la nécessité d'adapter et d'utiliser des moyens contemporains ou d'une compréhension de notre monde aujourd'hui pour pouvoir parler à ceux qui vivent dans ce monde, dans nos sociétés d'aujourd'hui, d'une manière qui soit pertinente, avec références qui correspondent aux références des gens. C'est-à-dire d'être à la fois fidèle à l'évangile, mais culturellement pertinent. Et c'est là que, d'une certaine manière, ça reste toujours quelque chose qu'il faut sans cesse renouveler. Voilà. Et cette citation auquel je pensais, là, c'est Ellen White qui disait « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Il leur disait « Suivez-moi ». Ben, je crois qu'il y a tout un programme là qui, pour le coup, n'est pas nouveau, ou qui ici est nouveau chaque jour avec chaque personne et qu'on pourra adapter à chaque personne. Et donc c'est là qu'il y a ce mélange entre le oui et le non, l'ancien et le nouveau. Voilà, se mélanger aux autres, aller à leur rencontre, leur faire du bien, gagner leur confiance et ensuite donc pouvoir dire, une fois qu'on a gagné cette confiance, suivez-moi. Il faut pas faire l'inverse. Je crois qu'il y a un conseil ici là d'une très belle sagesse.
Voilà. Alors, juste une dernière petite remarque qui m'est venue en fait pendant qu'on discutait. À mon travail, donc je suis graphiste, il y a une nouvelle méthode qui est sortie depuis une année ou deux, et ça m'a un peu fasciné parce que on se rend compte que dans le milieu séculier, les experts en communication travaillent activement à chaque évolution technologique à pouvoir justement s'adapter et mieux communiquer. Et cette méthode m'a fait penser à ce dont tu parlais, parce qu'effectivement, avant, lorsqu'on créait un site, on imaginait ce qui serait bien pour l'utilisateur. Donc on imagine qu'il aimerait ça, il aimerait ci, etc. Et aujourd'hui, depuis une ou deux années, il y a ce qu'on appelle le design orienté utilisateur. C'est-à-dire qu'on va plus arrêter de penser pour l'utilisateur, mais on va s'intéresser à ce dont il a besoin d'abord. On va faire des sondages, on va aller dans la rue, on va lui demander, il y a même des gens qui suivent des gens dans le métro, dans leur utilisation quotidienne, par exemple d'un mobile, pour voir ses usages, pour justement adapter les applications ou les sites à cette personne. Et ça m'a fait penser justement à tout ce dont on a parlé ce soir, parce qu'effectivement aujourd'hui, pour pouvoir être pertinent, il faut qu'on connaisse les besoins, il faut qu'on soit qu'on s'intéresse un minimum et qu'on soit vraiment en phase avec les gens qu'on a autour, et non pas, alors je mets de grandes guillemets, fantasmer ce dont les gens ont besoin. Et pour terminer, je discutais avec un collègue qui est tout ce qu'il y a de plus, alors pas athée, peut-être agnostique, donc c'est-à-dire qui croit en quelque chose, qui se pose des questions mais qui ne veut pas y répondre vraiment. Je lui ai dit clairement, si je t'aborde avec un prospectus, qu'est-ce que ça génère en toi? Ça m'intéressait parce qu'on discute beaucoup. Et il me dit, mais clairement, je me sens agressé. Je sens qu'on va essayer de rentrer dans mon esprit pour me transformer. Et ça m'a fait rigoler lorsque je discute avec lui. Mais en réalité, ces questions-là, peut-être qu'on ne se les pose pas suffisamment. Du ressenti des gens face à nos, entre guillemets, anciennes méthodes ou méthodes habituelles, voilà. Donc je sais pas si ça te parle.
Tout à fait, ça me parle et finalement ça résonne assez positivement avec tout ce qu'on a dit ce soir, effectivement. Et finalement c'est une invitation à se décentrer de soi. Je pense que ça peut aussi résumer un peu ce qu'on a dit, pour se centrer d'un côté sur Christ et de l'autre côté sur les autres, et se considérer comme un canal où, bien sûr, j'ai mon identité, j'ai ce que je vis et je suis moi, sans le renier, mais finalement je ne me focalise pas sur moi, sur les raisons d'avoir raison que je peux avoir, mais je m'intéresse sincèrement à l'autre, j'essaie de dialoguer authentiquement avec lui pour le comprendre et
de façon naturelle, j'ai envie de dire, qu'il ne soit pas déguisé.
Exactement. C'est pas un calcul. Personne, elle n'est pas le produit qui m'intéresse. J'ai juste envie qu'elle devienne mon amie. Et si elle est sincèrement mon amie, ben forcément, le trésor que moi j'ai, qui s'appelle Jésus-Christ, j'ai envie de le partager avec elle.
Voilà, alors je voudrais vraiment, de la part de toute l'équipe, te remercier, pasteur Gabriel Monnet, pour cette formidable intervention ce soir.
Également des auditeurs.
De la part des auditeurs aussi, oui. Aussi,
qui participent vraiment de belles discussions en antenne également.
Voilà. Et alors, ce n'était pas forcément prévu, mais on en a discuté vite fait et on aurait vraiment aimé ce soir, pasteur Gabriel, que tu puisses
prier pour conclure en fait cet échange qu'on a eu. Alors bien sûr, si tu veux rajouter quelque chose avant, bien sûr, sens-toi libre, il n'y a pas de souci.
Alors, merci beaucoup en tout cas pour ce moment de partage, et c'est une très belle idée de prier pour conclure.
D'accord. Alors,
je le fais volontiers.
D'accord. Alors, j'invite tous les auditeurs, à ceux qui peuvent, pouvoir prier avec nous. Et donc, c'est à toi, Gabriel.
Merci. Oui, je m'adresse à toi, mon Père, notre Dieu, à toi, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, pour te dire merci, d'abord, pour la vie que tu nous donnes, pour cette semaine qui s'achève, avec tout ce que nous avons pu être. Pour tous ceux qui sont dans la joie, eh bien, nous sommes dans la louange. Peut-être que parmi les auditeurs, il y en a qui sont plus dans la peine ce soir. Alors, je veux te les confier d'une manière particulière, que tu poses ton regard bienveillant sur chacun d'eux, et que, justement, se tourner vers toi puisse être une occasion de prendre un petit peu de hauteur. Je vais te présenter aussi nos vies personnelles. On le disait ce soir avec ce sujet autour de l'évangélisation, c'est quelque part quelque chose qui est inhérent à la vie chrétienne, que de partager, que d'être des témoins. On le fait pas toujours de la meilleure des manières, de la manière des plus adaptées. Et pourtant, c'est formidable que ce soit ta mission, que tu sois ce Dieu missionnaire qui désire, qui est à cœur de sauver les humains, de leur tendre la main pour qu'ils se reconnectent avec toi. Pas comme une fin en soi, ou pas seulement pour une gloriole qui serait la tienne, mais dans un amour sincère et véritable, et pour donner du sens à nos vies et les valeurs qui comptent. Alors, je te remercie d'abord, Dieu, de nous aimer comme ça, de nous tendre la main comme ça, et qui plus est de nous faire tes partenaires dans cette mission-là, pour nous, en tout cas pour ceux qui sont déjà croyants, engagés, qui peuvent à leur tour partager. Alors, Seigneur, aide-nous à peut-être savoir nous remettre en question, si nécessaire, et je crois que c'est souvent utile, pour le faire d'une manière qui soit la plus adéquate et qui te ressemble le plus, ou qui ressemble le plus à ce que toi, Jésus, tu as fait quand tu étais sur cette terre. Voilà, nous te confions nos vies, que le sabbat qui commence soit un sabbat béni pour le plus grand nombre, et que, en tout cas, les auditeurs qui sont déjà engagés puissent vivre des moments forts, et puis peut-être que il y a des auditeurs qui se posent des questions, eh bien, j'ai envie de leur dire et de te dire à Dieu en même temps, mais essayons la rencontre, le dialogue avec toi, Seigneur, parce qu'on n'est jamais déçu. Et que ces rencontres-là puissent nous toucher au plus profond de nos êtres, que tu continues de nous transformer pour toujours plus être à ton image. Je t'en prie, en ton nom, Jésus.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Gabriel. Nous te souhaitons une très bonne soirée. Que Dieu te bénisse et te fortifie, toi et ta famille.
Merci, bénédiction à vous tous aussi, animateurs et à tous les auditeurs.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Au revoir.